Histoire, actualité dans la fabrique de l'histoire de ce vendredi, actualité des recherches et des colloques, actualité des revues d'histoire. Dans la première partie de cette émission, nous allons vous rendre compte, et oui, on peut rendre compte d'un colloque qui pourtant se tient encore, d'un colloque international en cours, consacré au monde de 1848, une façon de resituer la révolution de 1848 dans un cadre beaucoup plus large, avec Sébrine Attard qui co-animera cette émission. Ce matin, nous interrogerons les trois organisateurs, Emmanuel Furex, Quentin Deluermoz et Clément Thibault. Nous resterons encore ensuite dans le 19e siècle avec la revue Le Magasin du 19e, dont le dossier porte sur le cosmopolitisme 19e. Nous en parlerons avec le directeur de la publication, José-Louis Gas, et la rédactrice en chef, Victoire Feuillebois. Enfin, comme tous les vendredis, notre séquence C'était à la une avec Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Attention, attention, ce matin, eh bien, Daniel Königsberg nous lira un texte de Georges Simenon quand il rencontra en 1933 à Istanbul Léon Trotsky.
Jamais en France, jamais l'anglais ne régnera, jamais l'anglais ne régnera. Guerre au tyran, jamais en France, jamais l'anglais ne régnera, jamais l'anglais ne régnera. Non, jamais en France, jamais l'anglais, non. Jamais l'anglais ne régnera, non.
Un extrait du Charles VI de Jacques Fromental à Lévis, composé en 1843. Guerre au tyran, jamais l'anglais ne régnera. Nous sommes 5 ans avant la révolution de 1848, qui sera au cœur de la première partie de cette émission. Avec vous, Sébrine Attard, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Quentin Deluermoz, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Furex, bonjour.
Bonjour.
Clément Thibault, bonjour.
Bonjour.
Alors, si on s'intéresse à cette révolution, c'est parce qu'on a bien compris depuis un certain temps qu'elle n'était pas la seule à se tenir dans cette année. On a souvent pensé aux révolutions européennes qui l'accompagnent et qui donc cheminent en même temps que cette révolution en France en 1848. Mais le propos de votre colloque qui se tient depuis 2 jours et qui dure encore toute la journée d'aujourd'hui à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, au 54 boulevard Raspail. Donc, le propos de votre colloque, Quentin Deluermoz, c'est de s'imaginer, eh bien, qu'il faut imaginer une carte encore un peu plus vaste que celle dont on parlait au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire l'Europe.
Exactement. Comme vous l'avez dit, la révolution de 1848, les historiens l'ont longtemps décrit comme étant la plus européenne des révolutions, ce qui est le cas. C'est une des premières conclusions de ce colloque, qui est de ne pas infirmer ça. Et l'idée aussi qu'il y a encore beaucoup à faire sur l'histoire européenne des révolutions de 1848. Mais là, le pari de ce colloque, d'une certaine manière, ça rend aussi ce besoin encore plus visible, c'est de l'ouvrir à l'échelle globale. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, une raison historiographique, c'est-à-dire que les chercheurs se sont de plus en plus intéressés aux dimensions extra-européennes du 19e siècle. Et puis pour des raisons factuelles, c'est-à-dire que ce qui caractérise notamment les révolutions de 1848, ça va être les abolitions de l'esclavage en France. Et puis, ça va être toute une série d'échos qu'on observe, notamment à l'échelle atlantique. Donc, on se rend compte assez rapidement qu'il y avait une dimension, au moins atlantique et sans doute globale, des révolutions de 1848. Et l'enjeu du colloque est de faire le point, en fait, sur cette dimension, en invitant des chercheurs. Un des intérêts, c'est de faire discuter des historiographies qui discutent assez peu entre elles. Donc, on a des spécialistes d'Amérique latine, on a des spécialistes de l'Empire ottoman, des spécialistes du monde méditerranéen, des spécialistes de l'abolition. Et on essaie de faire le point sur cette dimension qui, au fond, est logique de la globalisation de l'événement 48.
Et cette globalisation, finalement, vous la traitez aussi par domaine ou par thème, c'est-à-dire la question donc des médias, par exemple, de la communication, de la circulation des individus, des idées. Voilà, il y a plusieurs échelles circulatoire, pourrait-on dire. Emmanuel Ferex, peut-être.
Alors, c'est plusieurs thèmes et aussi plusieurs échelles, effectivement, d'analyse, puisque une première partie du colloque a été consacrée aux circulations individuelles, non pas pour chercher comment une sorte de modèle européen se serait diffusé à une échelle globale, mais pour montrer, au contraire, des appropriations souvent contradictoires, un peu paradoxales même. Par exemple, Romy Sanchez nous a montré comment certains exilés séparatistes cubains accueillaient très favorablement la révolution de 1848 en France sur certains aspects, mais pas sur l'abolition de l'esclavage. Il y a ensuite, à propos toujours de cette question centrale, effectivement, de l'abolition de l'esclavage, un certain nombre de communications qui se sont attardées sur l'application très locale. À la suite, disons, du décret du 27 avril 1848 dans les colonies françaises, avec là aussi des renouvellements très importants par une nouvelle génération d'historiens qui nous ont montré, par exemple, les effets de l'abolition en Sénégambie ou bien en Martinique, avec la réaction de colons blancs qui s'exilent de manière quasi politique à Porto Rico en réaction à cette abolition.
Alors, souvenons-nous de cette abolition, c'était le décret du 27 avril 1848, lu ici par Bakary Sangaré.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Décret sur l'abolition de l'esclavage. République française, liberté, égalité, fraternité. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir. Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, décrète. Article 1. L'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Article 8. À l'avenir, même à pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer soit directement soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Fait à Paris, en Conseil du gouvernement, le 27 avril 1848.
La lecture du décret de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 48 par Bakary Sangaré à l'occasion de ce colloque qui s'appelle donc Les Mondes de 1848 et qui se tient jusqu'à ce soir à l'école des hautes études en sciences sociales. Cébrine Yatta.
Clément Thibault, alors vous justement, vous travaillez, puisqu'on parle de la déclaration, enfin de la fin de l'esclavage, vous travaillez sur un principe, une idée de ce que vous appelez les colonies nouvelles qui en rapport et en même temps qui précèdent. Si cette déclaration, puisque vous travaillez sur des expériences qui se développent donc plutôt en Amérique hispanique, qui tendent remplacer le système esclavagiste par un système d'exploitation de ces terres soi-disant vides où on pourrait innover, renouveler une autre société.
Alors, l'un des facteurs les plus importants pour expliquer l'aspect global de la révolution de 48, c'est précisément cette fonction de l'esclavage. Hein, l'idée qu'il faut surmonter un monde qui est fondé sur l'économie de l'esclavage. Et les premiers mouvements en ce sens ont été posés pendant les révolutions atlantiques antérieures, c'est-à-dire aussi bien la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne, les indépendances de l'Amérique latine. Et toutes ces révolutions qui étaient des révolutions impériales donc ont posé la question de savoir comment on allait surmonter finalement les tares et les défauts des empires, des premiers empires modernes, à savoir l'esclavage, à savoir l'économie de plantation, à savoir l'exclusive coloniale. Et surgit, je dirais, beaucoup en France, autour de la première société des Amis des Noirs, une réflexion qui a été bien étudiée par Bernard Guénot et Marcel Dorény, autour de ce qu'ils appellent la colonisation nouvelle, et qu'on pourrait appeler tout court la colonisation, qui est un mot nouveau qui est surgi à ce moment-là. Mmh. Et cette colonisation vise justement à éviter la conquête, c'est-à-dire les tares des premières conquêtes de Cortés et de Pissarro, mais de dessiner une nouvelle géographie de la liberté, précisément en envoyant, en colonisant, des espaces extra-européens, aussi bien l'Afrique par des affranchis que des espaces américains, africains, voire asiatiques, par des colons européens politisés et qui apportent un certain nombre de valeurs.
Alors dans la théorie, c'est vrai que l'idée est belle, oui. Mais vous montrez aussi que dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe et puis il va y avoir plusieurs expériences de colonies nouvelles, Clément Thibault.
Alors disons que ce paradigme colonial, comme on l'appelle, ou le méridien colonial, intéresse aussi bien des entreprises privées, dans un contexte où, on l'a un petit peu oublié, la France est un pays d'émigration au début du 19e siècle. Il y a des dizaines de milliers de Français qui vont partir. Alors certains pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons politiques, après 1815. Et cela crée, ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, c'est que cela crée un plan de communication global qui permet aussi, grâce à ces migrations, la communication des idées, des expériences révolutionnaires au niveau de l'Atlantique. Et ce qui explique justement une diffusion assez facile vers le continent hispano-américain des révolutions de 48.
Ce qui est tout à fait étonnant dans le colloque que vous avez co-organisé tous les trois, donc Clément Thibault, Quentin de Lermoz et Emmanuel Furex, c'est qu'effectivement vous n'avez pas eu de mal visiblement à trouver dans l'Europe et dans le monde entier des chercheurs qui renouvellent ce regard que vous voulez voir plus mondial de ces révolutions de Quentin de Lermoz. Ça veut dire que en même temps que l'historiographie française s'intéresse et s'ouvre de plus en plus à ces questions de histoire connectée, d'histoire globale ou d'histoire mondiale, d'autres historiographies aussi desserrent l'étau d'une certaine façon, Quentin de Lermoz.
Oui, complètement. C'est un point que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs historiographies nationales également qui sont représentées, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs anglais, américains, italiens, turcs, italiens, enfin bon, on ne va pas tous les citer, beaucoup aussi de chercheurs argentins. Et en fait, c'est une double rencontre. C'est-à-dire que d'un côté, l'histoire dite connectée, impériale et globale se développe un peu partout dans les espaces académiques, avec des formules qui sont de plus en plus enrichies, c'est-à-dire qu'on ne fait plus tout d'approche diffusionniste, on essaie de comprendre
les réappropriations locales. Il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est une approche diffusionniste.
Ouais. On va donner un exemple simple, c'est celui de 1848, ça tombe bien. Une approche diffusionniste voudrait en gros que l'événement révolutionnaire européen, qui est déjà multiple, diffuserait ses idées de façon naturelle sur l'ensemble de la planète. Donc en gros, les autres espaces sont des réceptacles un peu passifs des grandes idées européennes. Une approche globale actuelle va étudier ce qui se passe sur ces terrains dits réceptacles, montrer qu'en fait on a des appropriations extrêmement riches et qu'au lieu d'avoir un seul centre avec une diffusion, l'impression qu'on a du colloque, c'est un jeu de billard en fait. C'est comme si on envoyait une boule sur un autre ensemble de boules, qu'on avait un jeu d'écho et de contre-écho et on a un espace beaucoup plus complexe que simplement une Europe qui serait au centre du monde.
Parce qu'il y a toutes les répercussions adjacentes en fait.
C'est ça, donc ça enrichit en fait l'idée d'une approche trop européo-centrée de l'événement.
Emmanuel Furex d'ailleurs, la journée d'hier s'appelait « Déseuropéaniser 1848 ».
Oui, alors, le titre est un petit peu provocateur parce que, Quentin l'a indiqué tout à l'heure, la révolution de 1848 reste la plus européenne des révolutions, indiscutablement. Mais on peut déplacer effectivement la focale et parfois même, à la lumière d'une histoire non européenne, mieux comprendre des événements proprement européens
de
1848. Un exemple, l'insurrection de juin 1848 à Paris, qui peut être lu, c'est ce que Alexandre Frondizi nous a proposé, non pas hier d'ailleurs, mais avant-hier.
Alexandre Frondizi qui était il y a deux semaines dans notre émission, il venait de soutenir sa thèse sur Paris, donc c'était en, il a fait sa thèse sur Paris et le quartier de la Goutte d'Or plus exactement.
Voilà, je m'en fais du coup le porte-voix ici pour souligner la fécondité d'une approche qui lie les journées ouvrières insurrectionnelles de juin 1848, non plus comme une insurrection, mais comme une sorte de pronunciamiento, c'est-à-dire comme un soulèvement d'une communauté de voisins qui tente une conciliation, qui de manière unanimiste érige des barricades, chacun étant invité à mettre une pierre, qui, après des tentatives de négociation, donc passe ensuite à la prise d'armes avec un recours à une sorte de caudillo, c'est-à-dire d'instance médiatrice, de figure médiatrice, qui en l'occurrence serait Caussidière, l'ancien préfet de police représentant des ouvriers. Et cette lecture à front renversé en quelque sorte des journées de juin 48 était particulièrement intéressante de ce point de vue-là.
Clément Thibault, sur ces questions justement de décentrement et de polycentrisme, parce que c'est bien ce qui est au cœur de votre colloque, c'est-à-dire d'imaginer qu'il n'y a pas un centre et une diffusion, mais des centres qui sont en écho les uns avec les autres.
Oui, absolument. Alors ce qu'on voit, c'est peut-être se dessiner une sorte d'Atlantique politique plus que de globe. Je pense que du côté asiatique ou africain, on a encore peut-être quelques efforts à faire. Dans cette Atlantique politique, il y a des expériences parallèles qui vont se croiser en 48. Par exemple, il y avait eu hier une belle communication sur le Brésil, où dans le cas de l'Empire brésilien, vous avez des soulèvements républicains, fédéralistes, sécessionnistes, qui souvent précèdent 48, mais qui, à l'occasion justement de l'arrivée des nouvelles du 48, notamment français, vont changer de caractéristiques, vont se radicaliser, adopter de nouvelles revendications. Et donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois de montrer peut-être les circulations, mais montrer aussi comment des histoires qui peuvent sembler parallèles et lointaines vont se croiser et vont se connecter à l'occasion de cet événement.
C'est donc, élargissement de focale d'un point de vue géographique et d'un point de vue chronologique alors. Parce qu'on voit bien que vous travaillez aussi sur ce qui précède, sur ce qui anticipe et sur ce qui succède, on va dire, au 1848.
Oui, ça a été l'objet de débats, d'ailleurs, hier, relativement vif, sur les effets...
Qu'est-ce que c'est un débat relativement vif dans un colloque sur 1848 Explicitez-nous.
Pas de barricade érigée, pas de gilet jaune non plus, mais simplement des différences de point de vue, je crois, réelles, et qui dépendent effectivement aussi de l'échelle d'analyse, c'est-à-dire les tenants d'une histoire proprement globale de 1848, nuance très très fortement la singularité de l'événement 1848 et envisage plutôt une sorte de crise du mi-temps du siècle qui commencerait avec les années 1840 avec les guerres de l'opium, jusqu'aux années 1860 avec la guerre de sécession et entre-temps la révolte des Taiping par exemple dans les années 1850, avec donc un processus de modernisation beaucoup plus large. D'autres, au contraire, considèrent 1848 comme une sorte de queue de comète, je dirais, d'une révolution atlantique engagée depuis les années 1770, et ce que vient de dire Clément tant plus tôt à cette thèse-là. D'autres considèrent qu'il faut quand même recentrer, malgré tout, l'épisode 1848 dans sa singularité, c'est-à-dire la simultanéité d'une flambée révolutionnaire en Europe à nul autre pareil, et... peut-être que le colloque, de ce point de vue-là, nous aidera, non pas à trancher, mais à enrichir notre vision de ce moment-là.
Quentin de Bermoz, quand on organise un colloque, il y a ce que l'on espère et puis ce que l'on a, au bout du compte. Alors, évidemment, quand on est co-organisateur comme vous, vous avez lu la plupart des communications avant qu'elles ne soient données, mais d'une certaine façon, il n'y a pas encore, quand on prépare un colloque, il n'y a pas encore la vivacité des discussions, etc. Qu'est-ce qui naît depuis deux jours autour de 1848 qui vous est surpris, en l'occurrence, Quentin de Lermoz?
Alors, deux choses. Effectivement, l'intérêt d'un colloque, c'est pas tellement d'entendre uniquement les communications, c'est de voir les gens discuter entre eux. Et la première surprise qu'on a eue dès le premier jour à Créteil, ça a été l'envie d'échange entre des chercheurs qui viennent d'historiographies différentes. Et là, il y a eu un vrai échange de surprises, de découvertes, de thématiques communes, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vrai, Emmanuel l'a dit, c'est assez rare de voir émerger un débat latent au cœur d'un colloque. Et là, il a été posé de façon très claire entre des historiens qui mettent en avant plutôt une approche globale en montrant les effets de décentrement que ça impose, et d'autres qui sont plutôt des spécialistes du phénomène révolutionnaire, c'est-à-dire du temps très court, de l'espace très court, surtout d'une révolution qui insiste sur l'immédiateté du politique. Et la torsion entre les deux, c'est un objet d'analyse magnifique. Donc de ce point de vue-là, on est comblé.
Clément Thibault, même question.
Oui, je pense que ce dialogue est extrêmement intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est la centralité de la thématique de l'esclavage et de son abolition, qui permet vraiment d'avoir non seulement de comparer les expériences révolutionnaires, mais d'avoir une vision extrêmement globale de l'ensemble. Ça, c'est vraiment un point fort, aussi bien du point de vue, je dirais, de l'effet révolutionnaire transformateur de 48, mais aussi des effets en retour qui ont été beaucoup abordés, contre-révolutionnaires, hein, parce qu'il faut aussi expliquer ce qui va se passer après, dans la décennie 1850-1860, hein, des effets de fermeture conservatrice extrêmement fortes. Je pense qu'il y a aussi un autre point qui m'a paru très intéressant, c'est la réflexion sur la chronologie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut justement étudier le temps court, l'histoire à prendre forte, la trépidation des événements, ou est-ce qu'il faut envisager un 48 dans une plus longue durée? Et là, se pose la question de savoir quel est le lien avec les premières révolutions, je dirais, américaines, françaises, etc.
Oui, mais après la suite. Il y a l'ombre de 1789. Vous en parlez tous. C'est-à-dire, faut-il en tenir compte ou pas? Dans quelle manière elle se diffuse, elle se transforme, il y a une opération de syncrétisme ou pas ailleurs?
Emmanuel Furex. Alors, oui, sans doute à une échelle atlantique, mais Clément en parlerait mieux que moi, c'est moins la référence 1789 que l'ensemble des polarités envisagées autour des révolutions atlantiques, c'est-à-dire en particulier la révolution haïtienne, dont les événements autour de l'abolition de 48 constituent une sorte de rejet avec toutes les peurs que cela suscite, d'une résurrection des violences de la révolution haïtienne.
Clément Thibault. Alors, aussi, l'un des apports intéressants, c'est de montrer que ces révolutions qui ont un caractère extrêmement européen, aussi peuvent être vues à partir d'autres observatoires extrêmement décentrés, qui dégagent d'autres pôles. Hein. Par exemple, vu des États-Unis, on a eu aussi des communications sur l'Argentine qui étaient très intéressantes, qui montrent que l'échec de la révolution de 48 fait qu'une partie des républicains hispano-américains considèrent que dorénavant, ils sont l'avant-garde du progrès de la République démocratique et sans doute sociale. C'est ce décentrement vers d'autres espaces qui je pense, est un des acquis de ce colloque.
Emmanuel Furec. Il y a un autre aspect qui a été évoqué ponctuellement, mais sur lequel on devrait peut-être réfléchir encore davantage, c'est sur l'horizon d'universalité de ces révolutions, qui se pose peut-être de manière plus frontale en 1789, mais qui est encore présent d'une certaine manière en 1848.
Alors, liberté le colloque, pour les autres peuples,
le colloque, d'une certaine façon. C'est ça, la fraternité universelle, le cosmopolitisme de ces révolutions, et qui prend une tournure sans doute singulière, au moins pendant l'année 1848, c'est-à-dire sa connotation très religieuse. L'idée d'une fraternité chrétienne universelle des peuples, qui au début est incarnée par la figure de Pie IX, qui va devenir une figure plutôt contre-révolutionnaire l'année suivante, en 1849. Mais voilà, il y a
solidarité ouvrière aussi.
Le retour de la République universelle, là, un petit peu franchouillarde, de 1848.
Franchouillarde, on a porté la lumière au monde et on ne va pas commencer à en dire du mal.
Mais justement, tout nous montre que notre perception très française de 1848 est totalement décalée quand on l'aperçoit, les échos lointains, que ce soit dans l'Empire ottoman, que ce soit dans les Amériques en général.
Quentin de Lermoz.
Oui, un autre point. En fait, le point d'observation donne des éclairages différents sur l'événement 48. Par exemple, on a vu tout ce qu'apportait l'angle de l'abolition de l'esclavage pour réinterpréter 48, mais on a eu d'autres communication sur les Balkans notamment, qui rappelait l'importance de la question agraire, des paysans, et de la manière dont dans les Balkans se jouent des logiques transimpériales complexes entre d'un côté l'Autriche, la Russie, l'Empire ottoman. Et une des questions qui était posée, c'est intéressant, c'est au fond les revendications de liberté des paysans dans ces espaces-là, sont-elles connectées ou non à 48, sachant qu'elles ont en même temps, elles ont un air de famille, mais on ne peut pas absolument établir de corrélation entre les deux. C'est ce genre de question qui enrichit en permanence le questionnaire, en fait.
Oui, Clément Thibault.
Oui, et ce qui enrichit aussi le questionnaire, à mon sens, c'est la multiplicité des acteurs en jeu qu'on peut maintenant associer aux révolutions de 48, des paysans dépendants des Balkans, des esclaves émancipés ici ou là, mais aussi au Mexique, un ensemble d'acteurs au niveau mondial qu'on n'associe pas à ce moment révolutionnaire. Pardon.
Alors il reste encore une journée, puisque nous sommes au tout début de ce 14 décembre, et que ce colloque dure à l'École des hautes études en sciences sociales jusqu'à 17h ce soir. Les thématiques, ce sont les expériences alternatives et les retours à l'ordre. Vous allez nous quitter dans un instant pour rejoindre l'École des hautes études, boulevard Raspail à Paris. Les mobilisations croisées, une présidence d'Annick Lamperrière et une autre de Sylvie April sur la question des utopies. Et vous interviendrez, Clément Thibault, sur justement cette question des communautés utopiques et des colonies agricoles en Amérique hispanique. Donc tout un programme qu'on pourra, quand on n'a pas eu la chance d'assister à ce colloque, qu'on se voir et voir comment, Quentin de Lermoz, Emmanuel Furex, qu'est-ce que vous avez mis à la disposition de tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus pour qu'ils puissent ensuite en avoir la substantifique moelle.
Alors nous allons en faire une publication. Nous sommes en train de réfléchir à la forme, de manière à ce qu'elle évite de prendre la forme d'un acte de colloque, qu'elle soit un livre à part entière sur 1848, polyphonique du coup.
Mais polyphonique, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui interviennent en anglais.
Tout à fait. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça.
Oui, Emmanuel Furex.
Oui, c'est cette forme devra s'adapter à cette multiplicité d'échelles. Il y a des zooms, il y a des photographies aériennes. Comment concilier tout ça? C'est le défi de, je pense, des prochains mois qui nous attend.
Voilà, mais oui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de temps de préparation pour un colloque. Il y a un tout petit temps de grande excitation intellectuelle au moment où ça dure, 3 jours, et puis ensuite, oui, il y a tout le boulot pour pouvoir publier tout cela et faire rendre cela disponible pour le public qui n'y a pas assisté. Merci à vous, Quentin de Lermoz, Clément Thibault et Emmanuel Furex, d'être venus présenter ce colloque Les Mondes de 1848. Si des auditeurs parisiens ont l'intention de venir vous voir à l'École des hautes études, c'est possible aujourd'hui? Est-ce que vous savez si l'entrée est ouverte?
Oui. Absolument, oui, voilà, oui. Depuis le début, l'entrée est ouverte, voilà, à tous.
Depuis 10h, à partir de 10h ce matin jusqu'à 17h ce soir, avec une table ronde finale avec théoriquement Christopher Clark, Megan Marouchke et Mathias Middel, c'est cela pour terminer?
Et Jörge Meyers, oui. Les trois personnes qui ont fait les conférences inaugurales se réunissent pour discuter des acquis du colloque. Merci beaucoup.
Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Le petit cochon, pensé par Yvette Gilbert. Tout seul dans la courtine ferme, lui venant de les petits cochons. Sans compagne, il s'en fait de ferme. Pas de femme, ce n'est pas polichon. Cochon, cochon, sans péter le petit cochon. Il avait son repas, mais son cœur n'avait pas. Pour l'aimer de cochon, cochon, cochon. Ouh, le pauvre petit cochon. Voici qu'un jour, jour d'allégresse, si tous amis on lui donne. Gentil comme tout et plein de graisse, avec une voix tribadonna. Cochon, cochon, il ne fait pas si cotichon. Chaque jour il embrassa son heure miante, pitié en tire-bouchon. Cochon, cochon.
Le petit cochon, interprété par Yvette Gilbert en 1897 sur des paroles d'Eugène Hérault. Le petit cochon parce que Yvette Gilbert est présent dans le dernier numéro du magazine du 19e siècle, titré Cosmopolis, mais dans une autre partie, puisque c'est un magazine très riche qui coûte 25€ et qui fait pour l'instant, je crois, 300 pages exactement. Et donc Yvette Gilbert est présente dans un article de Jean-Claude Yon, grand spécialiste des spectacles au 19e siècle, qui évoque la réouverture de la Scala, nouvelle salle parisienne, mais qui plonge en plein cœur du 19e siècle. Et Yvette Guilbert faisait partie d'un spectacle qui s'intitulait à la Scala, à la toute fin du 19e siècle, Paris, fin de sexe. Bonjour à vous, José-Louis Diaz, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de cette publication qui s'intitule Le magasin du 19e siècle et nous sommes au téléphone avec la rédactrice en chef, Victor Feuillebois. Bonjour Victor Feuillebois.
Bonjour.
Alors, pour ce qui est de vous, José-Louis Diaz, il faut peut-être que vous nous présentiez ce magazine que tout le monde ne connaît pas, qui est publié donc par les éditions Chansalon, la Société des études romantiques 19e-istes, et que donc vous êtes, dont vous êtes le directeur de la publication. C'est quoi cette revue qui s'appelle Le magasin du 19e siècle?
C'est un magazine plutôt qu'une revue. Hein, un magasin, comme on disait au 19e siècle, hein, sur le modèle du magasin pittoresque, c'est ça qui a été notre idée. On a pris même le format, hein, le magazine pittoresque a exactement ce
très beau format
que nous avons, absolument. Un format un peu carré, comme ça, à deux colonnes, avec beaucoup d'illustrations. Nous avons tenu à ces illustrations. Elles sont en noir, mais ça fait très 19e siècle.
Hein, ça va bien.
Ces illustrations noircies, nègres. Et donc, voilà, ça a été ça. Alors, c'est une revue, c'est un magasin, plutôt, qui complète, par ailleurs, d'autres publications que nous avons. Hein. La grande revue que nous gérons depuis très longtemps, depuis 1970 maintenant, qui va fêter son cinquantenaire, c'est Romantisme. Mm-hmm. Ça, cette fois-ci, c'est 4 numéros par an. Le magasin, c'est un seul numéro par an qui paraît un petit peu avant les fêtes, de telle sorte qu'on peut l'offrir, puisque c'est un objet assez luxueux,
Très beau.
Spectaculaire,
voilà, et très beau. Avec pour thème dans ce dossier, parce qu'il y a un dossier puis d'autres parties qui sont donc complémentaires et qui sont présentes dans chacun des numéros du magasin du 19e siècle, Victoire Feuillebois a un dossier sur Cosmopolis, et c'est donc le cosmopolitisme vu par le 19e siècle, avec un extrait par exemple, beaucoup d'extraits de titres et de romans, de reportages qui reprennent cette notion de cosmopolitisme, comme celui d'Ivan Golovin en 1844, un jour viendra où nos lumières s'étendront à l'univers entier, où chacun pourra se dire citoyen du monde. Il y a déjà des esprits assez forts pour être à cette hauteur. Faisons des vœux pour que leur nombre aille en s'accroissant. La nationalité a fait du bien, mais elle a fait son temps et doit faire place au cosmopolitisme, disait-il en 1844, Victoire Feuillebois.
Oui, absolument. C'est ce qui nous a intéressé dans ce numéro, c'est effectivement que l'homme du 19e siècle a vraiment l'impression d'une modification d'échelle dans son expérience, avec l'idée que les processus se déroulent maintenant vraiment à l'échelle du monde et qu'il y aurait un extérieur à la nation, potentiellement exaltant ou menaçant. Et vous citiez ce texte, mais on a vraiment l'impression au 19e siècle, quand on regarde les titres d'ouvrages qu'on connaît encore aujourd'hui, que tout devient en quelque sorte universel à l'échelle mondiale. On pense au dictionnaire de Pierre Larousse, qui est le dictionnaire universel. Mmh. Évidemment, Autour du monde en 80 jours, mais il y a aussi beaucoup de noms de revues qui portent cette ambition. Le Globe, Le Monde illustré, La Revue des deux mondes, L'Univers illustré. Et justement, nous avions voulu nous pencher sur cette modification pour voir en quoi elle introduisait une rupture avec le 18e siècle et en quoi est-ce qu'elle annonçait un certain nombre de processus dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons intitulé le numéro « Cosmopolis », puisque nous avons voulu en fait revenir vraiment à la source de l'idée de cosmopolitisme, qui est l'idée que cette ouverture au monde, elle se joue dans l'espace urbain, dans les villes, et que cette mondialisation, qu'on n'appelle pas évidemment encore mondialisation, elle va de pair avec une métropolisation, et le fait que la ville absorbe ces mouvements et en retour, les spectacularise, les met en scène à travers
des décors,
l'espace public urbain, des décors, voilà, et dont l'exemple par excellence est évidemment l'exposition universelle, qui est un des grands phénomènes 19e-istes par excellence.
Alors, phénomène, vous disiez, Victoire Feuillebois, phénomène exaltant, mais aussi qui peut être très angoissant, et je pense angoissant, voire de rétraction sur soi-même. Et je pense aux articles qui concernent notamment les Juifs, hein, Cosmopolite, le Juif, point d'interrogation, même pas Françoise Gaillard, c'est-à-dire cette figure du Juif cosmopolite, c'est celui c'est l'étranger, c'est celui qui ne s'intégrera jamais, c'est la figure rejetée par excellence, alors que le cosmopolite des Lumières était celle de l'aristocratie, celle de l'humanisme, par exemple.
José Louis Diaz. Oui, alors nous sommes au siècle du cosmopolitisme, mais nous sommes au siècle aussi de la montée des nationalismes. Mmh. Il faut vraiment avoir ces deux événements en tension, les mettre en tension, ce qu'on ne fait pas en général assez, je trouve. Et c'est parce que justement il y a une exaltation du nationalisme que le cosmopolitisme va s'amplifier en quelque sorte et essayer de devenir encore plus concret. Nous sommes au siècle où on n'est plus seulement dans les idéaux, dans les utopies, qu'on lançait le 18e siècle déjà, autour de Fougeray de Montbrun. Je vous rappelle cette phrase qu'il faut presque mettre en exergue. L'univers est une espèce de livre dont on n'a lu que la première page quand on n'a jamais vu que son pays, c'est du 1761. C'est pas 19e-iste, c'est d'avant. Mais le 19e siècle, c'est le siècle où cette utopie continue, bien sûr, à féconder les penseurs utopistes, mais aussi entre dans le concret, dans le spectacle de la ville, se métropolise, comme disait si bien tout à l'heure Victoire. Donc cette tension entre les rejets que suscite la montée nationalisme, rejet de l'autre, de l'ailleurs, et l'affirmation concrète, cette fois-ci, concrète, dans les rues, dans les métropoles, de cette dimension universelle.
Oui, alors Victoire Feuillebois, par exemple, il y a des figures qui naissent. Alors, Séverine Liattard, évidemment, a évoqué cette figure d'une bourgeoisie juive, et d'ailleurs, il y a un article qui lui est consacré à cette bourgeoisie juive, qui est à la fois admirée parfois et qui, évidemment, suscite des jalousies et du rejet parfois, mais il y a aussi la figure du Rastaquouer, que on retrouve plusieurs fois dans ce numéro du magazine du 19e siècle, donc dans ce dossier Cosmopolis, Victoire Feuillebois.
Oui, absolument. La figure du Rastaquouer, qui est donc une figure centrale pour le roman du 19e siècle, en particulier quand il se penche sur ces scènes de la vie cosmopolite. Le Rastaquouer, c'est en général un Sud-Américain. Ça fait partie donc de ce mouvement d'ouverture, de découverte de nouveaux espaces qui sont assez peu représentés autrement dans la fiction auparavant. Et il représente, c'est une espèce d'ancêtre du jet-setter en quelque sorte. C'est une figure qui est liée au divertissement, qui est associée à l'argent, qui en général a beaucoup d'argent et dépense des sommes extrêmement importantes à Paris. Et ce que souligne très
C'est le tonton Cristobal du 19e siècle, c'est cela, Victoire Feuillebois.
Exactement, voilà. Et ce que souligne très bien un des articles de notre revue, c'est que c'est une figure qui est en fait assez peu associée à du contenu politique. C'est vraiment une figure, là encore, qui témoigne de cette spectacularisation cosmopolite, mais il n'est pas lui-même décrit comme ayant des ambitions politiques ou une orientation politique particulière, même si évidemment il est repris dans les discours nationalistes de manière assez obsessionnelle. Mais je pense que l'intérêt aussi de ce numéro, c'est de rendre au cosmopolitisme du 19e siècle sa diversité, puisqu'effectivement on traite de grandes figures qui sont des figures de ce qu'on appelle le cosmopolitisme par le haut, donc ce jet-setter, la haute bourgeoisie juive qui est traitée donc sous l'angle notamment du mécénat, mais il y a aussi un certain nombre d'articles qui se consacrent à ce qu'on appelle aujourd'hui le cosmopolitisme par le bas, notamment les internationales ouvrières,
Samuel Ayat.
Présence des étrangers, exactement, dans l'article de Samuel Ayat, ou la présence des étrangers sur les barricades parisiennes de 1848, dont il vient d'être question. Et ça me paraît très intéressant de voir que ce phénomène cosmopolite au 19e siècle, c'est vraiment un phénomène de brassage à la fois géographique, mais aussi social, qui nuance en quelque sorte ces stéréotypes qui tendent à mettre l'accent uniquement sur les figures les plus riches, les figures qui occupent le haut de la société en quelque sorte. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois de nuancer ces stéréotypes, donc en traitant directement de la figure du juif et de la figure du Rastaquouer, mais aussi de laisser leur place à cet autre personnel du cosmopolitisme sur lequel on met souvent moins l'accent.
Et quel est le rôle justement de tous ces littérateurs? Parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi sur la figure du cosmopolite, dans les représentations littéraires. Je pense, voilà, il y a Stendhal, il y a Théophile Gauthier, il y a Marie Bazkir-Steff, par exemple.
Maxime Ducamp également.
Maxime Ducamp, beaucoup, oui.
Théophile Gauthier, oui, bien sûr, vous l'avez dit.
Théophile Gauthier est essentiel. Hein. Mais pas uniquement à cause de ses voyages, mais aussi à cause de sa conception d'une esthétique universelle, déjà. Hein. Cosmopolitisme esthétique. Hein. C'est ça qui caractérise, me semble-t-il, Gauthier. L'absente, peut-être, ça serait Madame de Staël. C'est elle qui invente ou explore par la force des choses, hein, puisqu'elle est expatriée, hein, cette dimension européenne, cette dimension transnationale, hein, et la vie comme une expérience proprement littéraire, justement, en fait littérature, et se dégage ensuite dans son sillage, dans sa lignée, en quelque sorte, ce qu'on va appeler aujourd'hui la littérature comparée. Hein, la dimension du comparatisme n'est peut-être pas assez présente dans notre numéro, c'est la prochaine fois peut-être, un complément possible, mais cette montée en puissance de cette conception d'une littérature universelle.
Et puis ces figures de grandes métropoles, dont on parlera bientôt dans la Fabrique de l'Histoire, ces figures de grandes métropoles, parmi lesquelles évidemment Paris, Delphine Diaz note dans son article sur les barricades de 1830 combien en 1844, eh bien Louis Desnoyers dans Les Étrangers à Paris disait « L'ingénieuse idée de ce livre devait nécessairement être mise tôt ou tard à exécution, car Paris est la ville des étrangers par excellence. » Cette idée qu'il y aurait une sorte de capitale des étrangers, ce qui paraît complètement aberrant, mais qui est effectivement quelque chose de très ancré dans ce début du 19e siècle, Victoire Feuillebois.
Oui, tout à fait. Et je pense que le fait de désigner Paris comme la capitale des étrangers, mais peut-être dans un sens assez positif finalement, met aussi au jour une dynamique qui est très particulière, une ambivalence en quelque sorte de ce cosmopolitisme, qui est que le cosmopolitisme est perçu, enfin là, le brassage des cultures est perçu soit comme un signe de puissance nationale, finalement quelque chose qui vient renforcer l'identité nationale. C'est présent dans le discours nationaliste, par exemple, d'un Barrès, qui est certes un nationaliste, mais qui a une obsession cosmopolite, qui veut faire publier de la littérature étrangère, qui est fasciné par la figure de Marie Bazkir-Steff. Et d'un autre côté, ce mouvement-là, ce serait Paris qui l'incarnerait, Paris qui serait capable d'accueillir, lors de la Grande Exposition universelle de 1889, l'ensemble des cultures et de les récapituler, en quelque sorte. Et puis, il y a des villes qui pâtiraient, en quelque sorte, du cosmopolitisme. Et là, l'exemple qui est traité aussi dans notre dossier, ce serait Bruxelles, qu'on peut percevoir comme une forme d'Europe en miniature. Mais malgré tout, ce qui domine, c'est quand même l'idée que c'est une ville sans identité propre, qui ne fait qu'être traversée par des courants qui viennent de Londres, de Paris ou de Berlin, et qui finalement subit des conséquences politiques extrêmement néfastes de cette ouverture à tous les vents dont elle est l'objet, en quelque sorte.
C'est vrai, Yata.
Toute cette problématique, évidemment, cosmopolitise, dit les enjeux circulatoires, en fait. Hein, circulation des idées, on parlait de voyage, circulation, évidemment, des hommes, dû évidemment, à la modernisation des transports. La question des médias est extrêmement intéressante également. Les idées vont plus vite. Et il y a d'ailleurs, voilà, par exemple, un article sur le rire international de Julien Chou qui montre comment les caricatures circulent, s'échangent. Bon, mais finalement, sa conclusion, c'est de dire que certes, il y a circulation, mais il y a standardisation aussi. C'est-à-dire que ça ne fait que renforcer les stéréotypes des identités nationales.
José-Louis.
Oui, c'est ça. Il y a un sentiment. Il y a à la fois, un sentiment de diversité, hein, et de diversité des langues, diversité des images, diversité des couleurs, et à la fois un sentiment, effectivement, d'uniformisation. Déjà, ce qu'on va appeler, nous, la mondialisation, ce qui suppose, effectivement, stéréotypie mondialisante et universalisante, est déjà à l'œuvre. Hein. Certaines des témoignages que nous avons recueillis, en particulier dans le florilège que j'ai composé, avec leur façon à eux, hommes du 19e siècle, de parler de cela, disent souvent cela, hein, disent souvent ce sentiment de déjà tout est homogène, hein, et ça tient effectivement, comme vous le disiez, à la plus grande vitesse des transports, hein, c'est les transports. J'en prends pour témoignage Esquiros en 47 qui dit ceci: par les chemins de fer, Paris touchera bientôt à Bruxelles, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à Cadix, à Rome, par les télégraphes, hein, il y a aussi des télégraphes, une idée aura plutôt fait le tour de l'Europe qu'il n'en fallait à un roi de France au XVIIe siècle pour se rendre migrant de son château des Tuileries à la forêt de Fontainebleau. Voilà le sentiment qu'ils ont et qu'ils vivent, hein, que le monde se rétrécit en quelque sorte.
Et que
donc
l'on
le cosmopolitisme.
Et que l'on voyage en plus davantage. Il y a la question du tourisme extrêmement importante également.
Bien sûr.
Hein,
et des expositions universelles. Et vous évoquez l'une d'entre elles dans ce numéro du magazine du 19e siècle intitulé Cosmopolis. C'est Marie-Ange Fougère qui évoque Cosmopolis à la Maison du Rire en 1900 avec cette frise, une frise qui orne la façade de la Maison du Rire, Victoire Feuillebois, et qui est un défilé des nations humoristiques, caricaturales, avec évidemment toutes les caricatures. On y voit la Vénus Tantote, on y voit les Indiens, on y voit les Russes qui portent une salade russe, etc., etc. Donc tous les stéréotypes, pourrait-on dire, qui vont faire florès ensuite, brièvement, très brièvement, Victoire Feuillebois, pour terminer cette séquence.
Oui, absolument, ça fait partie de cette dynamique de spectacularisation qu'on a observée, et c'est très intéressant en ce qui concerne la frise de la Maison du Rire, c'est qu'à la fois elle donne à voir ces stéréotypes, et en même temps, lorsqu'on va à l'exposition universelle, on n'y va pas simplement pour voir ces objets représentés sur la frise, mais on y va aussi pour voir dans les couloirs et les rues de l'exposition universelle les visiteurs qui eux-mêmes viennent de partout.
Eh oui.
Donc, on voit donc cette dynamique, elle provoque des mises en scène, mais elle est elle-même un spectacle permanent dont Paris se nourrit lors de cette grande exposition universelle de 1889, effectivement.
Merci beaucoup à vous, Victoire Feuillebois. Donc, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Strasbourg en littérature comparée et en littérature russe plus exactement. Et merci à vous, José-Louis Dias. Vous êtes donc le directeur de la publication de ce magazin du 19e siècle qui est un très beau cadeau à offrir effectivement à Noël et qui s'intitule donc Cosmopolis. Avec aussi, on ne l'a pas dit, un très grand entretien avec Jacques Roubaud, Les Mondes de Jacques Roubaud. C'est donc 25€ en librairie, ce magazine du 19e siècle. Et bonne continuation. Et nous allons terminer par un cosmopolite par excellence, puisqu'il a dû courir ensuite, après avoir quitté sa patrie, courir le monde pour échapper à ses assassins. C'était Léon Trotsky. Il se trouvait en 1933 du côté d'Istanbul. Et c'était un Paris soir que Georges Simenon raconter la rencontre qu'il avait pu avoir avec lui. Un texte lu par Daniel Königsberg dans notre séquence finale du vendredi. C'était à la une. C'était à la une.
Paris soir, jeudi 15 juin 1933. Chez Trotsky, de notre envoyé spécial, Georges Simenon. Trotsky, je lui ai écrit avant-hier pour lui demander une entrevue. Le lendemain matin déjà, j'étais réveillé par la sonnerie du téléphone. Monsieur Simenon, ici le secrétaire de Monsieur Trotsky. Monsieur Trotsky vous recevra demain à 4h. Il faut auparavant que je vous dise que Monsieur Trotsky, dont les déclarations ont été trop souvent déformées, désire recevoir auparavant vos questions écrites. Il y répondra par écrit. Voici Prinkipo. L'île où se dresse quelque part la maison de Trotsky. À Prinkipo, le débarcadère est entouré de restaurants dont les nappes blanches scintillent dans le soleil. Des voitures attendent, attelées de deux petits chevaux, couvertes d'un dé de toile, mais elles subissent la concurrence des ânes qui, tous ailés, attendent sans impatience. Trotsky. Une voiture m'emmène le long d'une route bordée de villas. Beaucoup sont à louer ou à vendre, car la crise est dure en Turquie aussi. En contrebas, on aperçoit la mer plate et bleue. La voiture s'arrête. Mon cocher tend le bras. Il ne me reste qu'à descendre par une venelle entre deux murs. Un jeune homme s'avance, cordial, la main tendue. Monsieur Simenon, le secrétaire n'est pas russe. C'est un jeune garçon du Nord, plein de santé, au teint rose, aux yeux clairs. Il parle français comme s'il était né à Paris. Voulez-vous le voir maintenant ? Trotsky se lève pour me tendre la main, puis se rassit à son bureau, en laissant doucement peser son regard sur ma personne. Simple et cordial, il me tend des feuilles dactylographiées qui contiennent ses réponses à mes questions. Je les ai dictées en russe, et mon secrétaire les a traduites ce matin. Je vous demanderai seulement de me signer un second exemplaire que je garderai. Vous pouvez me questionner. C'est vrai. Seulement, ce qui se dira ici désormais, je me suis engagé à ne pas le publier. Trotsky commente les déclarations qu'il m'a remises, et sa voix, ses gestes, sont à l'unisson de la paix ambiante. Nous parlons d'Hitler, longuement. Le sujet le préoccupe. On le sent inquiet. Je lui répète les opinions si contradictoires que j'ai entendues un peu partout en Europe, non sur l'œuvre du Führer, mais sur sa personnalité, sur sa valeur propre. Et je ne crois pas être infidèle à mon engagement en répétant quelques mots qui m'ont frappé là-bas, dans la maison de Principo, si distante de Berlin. Hitler s'est fait lui-même au fur et à mesure qu'il faisait son œuvre. Il a appris degré par degré, étape par étape au cours de la lutte. J'ai demandé à Trotsky, « Croyez-vous que la question des races sera prédominante dans l'évolution qui suivra la fermentation actuelle, ou bien sera-ce la question sociale, ou la question économique, ou la question militaire ?» Trotsky répond, « Non, je suis loin de penser que la race soit un facteur décisif dans l'évolution de l'époque prochaine. La race est une matière anthropologique, crue, hétérogène, impure, mêlée, mixtum compositum. Une matière d'où le développement historique a créé les produits semi-fabriqués que sont les nations. Les classes et les groupements sociaux, les courants politiques qui naissent sur leur base décideront du sort de l'époque nouvelle. Je ne nie évidemment pas la signification des qualités et des traits distinctifs des races. Mais dans le processus de l'évolution, devant la technique du travail et devant la technique de la pensée, elle passe à l'arrière-plan. La race est un élément statique et passif. L'histoire est la dynamique. Lorsqu'Hitler se prépara à établir un régime étatique adéquat à la pure race germano-nordique, il n'a trouvé rien de mieux que de plagier la race latine du Midi. En son temps, Mussolini, dans la lutte pour le pouvoir, a utilisé, bien qu'en la renversant, la doctrine sociale d'un Allemand ou d'un Juif allemand, Marx, qu'il avait appelé un ou deux ans auparavant « notre maître immortel à tous ». Si, aujourd'hui, au XXe siècle, les nazis proposent de tourner le dos à l'histoire, à la dynamique sociale, à la civilisation, pour revenir à la race, alors pourquoi ne pas revenir encore plus en arrière ? L'anthropologie, n'est-il pas vrai, n'est qu'une partie de la zoologie. Qui sait ? C'est peut-être dans le royaume des anthropopithèques que les racistes trouveraient les inspirations les plus élevées et les plus indiscutables pour leur activité créatrice. Georges Simenon.
Léon Trotsky, interrogé en 1933 par Georges Simenon pour Paris Soir, un texte lu par Daniel Königsberg, que vous pouvez retrouver, ce texte évidemment, en allant sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Il est beaucoup plus long que cet extrait qu'on a lu ce matin. Si vous voulez savoir donc ce qui se passera demain en histoire, puisque vous le savez, l'histoire continue sur France Culture le week-end avec Jean-Noël Jeannet, eh bien il recevra Henriette Levillain demain à 10h dans Concordance des Temps pour parler de Saint-Jean-de-Perse, l'immarcessible. Et puis vous pouvez aussi écouter le dernier volet de Matière à penser d'Antoine Garapon cette semaine à 22h15 ce soir. Il parle toujours des droits de l'homme avec Muriel Fabre-Magnan. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Dalia nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Pour notre part, la semaine prochaine, une semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire où nous reviendrons sur le mouvement des Gilets jaunes et plutôt sur les idées qui sont sorties de ce mouvement vues par les historiens. Et en particulier, nous parlerons dès lundi de démocratie directe et de démocratie représentative avec Nicolas Rousselier et avec Gérard Noiriel.